Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
La grande bourgeoisie, voyant que les monarchistes pinaillent, etc., ils disent, bon, on va faire une république, mais on va faire une république conservatrice. C'est Jules Ferry, la grande bourgeoisie industrielle et financière française. OK pour le suffrage universel, OK pour la république, mais ça va être une république conservatrice. On va s'arranger pour que le suffrage universel nous donne toujours la majorité. Ça a bien marché. Les militants ouvriers n'étaient pas dupes. Cette république n'était pas une république sociale. Ils revendiquaient la sociale. Aujourd'hui, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que ces grands financiers, ces grands banquiers qui ont le mot république plein la gueule? Ils chient pour la honte. De quelle république parle-t-il? Il faut que non seulement elle soit démocratique, qu'on respecte le suffrage universel. Il est bafoué presque tous les jours, le suffrage universel.
La grande magie de la démocratie bourgeoise, c'est de permettre aux pauvres de voter pour des riches. Salut, c'est JBD, c'est La Voix Off. Bienvenue à toi pour le deuxième épisode de cette série sur le congrès de Tours de 1920. Congrès où la SFIO, parti socialiste d'alors, se divise en deux. Division qui marque la naissance du Parti communiste français. On l'a vu au précédent épisode, hein, le déclencheur de cette scission, c'est la collaboration dans la guerre et avec la bourgeoisie d'une partie des socialistes. Cette trahison des idéaux ne passera pas chez nombre d'authentiques socialistes qui décident en 1920 de quitter la SFIO pour fonder ce qui deviendra le Parti communiste français. PC qui, certes, restera longtemps un féodé à Moscou, mais PC auquel les Français doivent non pas le goulag, mais les retraites par répartition, la sécurité sociale, l'hôpital public, les services publics et autres droits sociaux, la culture populaire aussi. Enfin bref, les Français doivent aux communistes tout ce qui est systématiquement détruit par les partis de droite qui défilent au pouvoir depuis des décennies, y compris par la droite molle incarnée par le PS, parti qui n'a de socialiste que le nom, et qui depuis 1914 n'a jamais raté une occasion de trahir le peuple et ses promesses. On se souviendra notamment d'un Hollande ennemi de la finance, du moins quand il était candidat.
Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Mais les raisons de la division entre les futurs PS et PC remontent aux origines des pensées socialistes du 19e siècle. Outre les divergences avec les anarchistes, divers mouvements socialistes se distinguent entre les révolutionnaires et les réformistes qui, eux, ne prônent pas la révolution, mais pratiquent donc la collaboration avec la bourgeoisie. Collaboration et trahison qui culminent avec ce qu'on a appelé l'Union sacrée lors de la première grande boucherie mondiale de 14-18. 1 300 000 Français assassinés, sans compter les blessés et autres gazés, avec la complicité d'apparatchiks de la SFIO qui collaboreront donc dans la guerre. Le traumatisme de 14-18 restera dans la gorge d'un certain nombre de militants socialistes et sera lourd de conséquences qu'on évoque aujourd'hui avec André, notre ami prof d'histoire géo. Salut André.
Salut à tous.
Pour la petite histoire, le congrès de Tours se tient salle du manège, bâtiment détruit en 1940 et qui était accolé à l'église Saint-Julien en haut de la rue Nationale. Le congrès de Tours de 1920 réunit donc des délégués de toutes les sections socialistes de métropole et des colonies, notamment un certain Nguyen Xin Kung, jeune indochinois qui se fera plus tard appeler Ho Chi Minh. En 1920, on est 2 ans après la fin officielle de la grande boucherie de 14-18, massacre qui a pourtant continué à l'Est bien après l'armistice du 11 novembre. En 1920, on est 3 ans après la révolution russe d'octobre 17 qui semble bien avoir réussi aux bolcheviks de Lénine qui, non seulement se battent contre les blancs, troupes russes restaient fidèles au tsarisme. Mais à partir de 1918, la jeune Russie révolutionnaire va aussi subir l'agression d'une quinzaine de puissances occidentales qui soutiennent les Blancs, France, Angleterre, États-Unis, et aussi l'Allemagne et la Pologne, qui s'accaparent d'immenses territoires russes. Or, en avril 17, aux Russes, Lénine a promis la paix, la terre et le pain.
Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов.
Lorsque Lénine arrive en avril 17 en Russie, le Parti socialiste russe est déjà divisé. C'est-à-dire qu'il y a en fait deux partis socialistes qui sont nés de la scission du Parti social-démocrate russe. Les bolcheviks et les mensheviks. Bolcheviks, c'est le parti de Lénine et de ses camarades, le parti communiste qui prône la révolution. Les mensheviks sont un parti socialiste, ils sont marxistes aussi, mais pensent que la révolution n'est pas possible en Russie parce que c'est un pays très retardé, partiellement industriel, très majoritairement paysan. Avec des structures encore quasi féodales, de la grande propriété, etc., etc.
Marx imaginait plutôt une révolution en Allemagne ou en Angleterre, une révolution dont le fer de lance aurait été les ouvriers des grandes industries.
Il y a une grosse industrie très concentrée en Russie, en Ukraine, l'Ukraine c'est la Russie à l'époque, hein, du côté de Saint-Pétersbourg, etc., qui s'appelle Petrograd pendant la guerre, qui a été débaptisé. Car Saint-Pétersbourg était trop germanique. Il y a une classe ouvrière très concentrée. Il y a des mines, il y a de la sidérurgie, il y a de l'industrie textile extrêmement importante. La caractéristique de la classe ouvrière russe, c'est qu'elle est très concentrée. Elle travaille dans des conditions épouvantables. Elle est très politisée, déjà. C'est cette classe ouvrière qui va créer les soviets, qui sont des conseils ouvriers. L'idée plaît beaucoup aux anarchistes, c'est-à-dire le fait que les ouvriers s'organisent eux-mêmes. Ils créent des soviets. Il va ensuite après y avoir des soviets de soldats, de marins, de paysans même. Hein. Mais c'est ce mot soviet qui va donner le mot Union soviétique plus tard. Donc le parti socialiste russe est déjà divisé. Il y a même trois partis socialistes en fait. Hein. Il y a les bolcheviks, les mensheviks, plus modérés, hein. Pas disposés à faire la révolution tout de suite. Et il y a aussi les SR, socialistes révolutionnaires, qui au départ était un parti agraire, porté sur la paysannerie révolutionnaire. C'est les descendants des populistes, narodniki, des gens qui militaient auprès de la paysannerie. Ils forment un parti socialiste qui n'est pas communiste, mais qui est révolutionnaire. Et qui d'ailleurs, pendant la révolution de 17, allié aux bolcheviks. Bon, je reviens à avril. Pour Lénine, lui, la situation est propice à une révolution parce qu'il a la guerre. Sans la guerre, les thèses du parti bolchevique ont peu de chances d'aboutir. Mais là, il y a une telle désorganisation, une telle dissolution de l'État, des structures administratives, politiques, etc., de l'État, qu'il y a possibilité. Et il y a une opposition au tsarisme très très forte. Et puis, il y a l'énorme force de la paysannerie russe qui a faim de terre, qui a besoin de terre. Et Lénine leur promet la terre de façon à obtenir une alliance entre la grosse majorité de la paysannerie russe et la classe ouvrière révolutionnaire. Voilà ce que prône le parti bolchevique. Et sa tactique va réussir, c'est-à-dire qu'entre mars et novembre, ils vont peu à peu gagner, devenir majoritaires, parce que la guerre se poursuit. Et même au dernier moment, le gouvernement russe est dirigé par un socialiste, Kerensky, un menchevique, un socialiste modéré, qui continue la guerre et qui perd tout crédit auprès des gens. Qu'est-ce que c'est que ces socialistes qui poursuivent la guerre alors qu'ils devraient être dévoués aux intérêts des travailleurs, des pauvres gens, etc. Ce qui fait que les bolcheviks vont acquérir une grande popularité dans les grands centres comme Petrograd et Moscou. Alors on a souvent présenté la révolution bolchevique comme un coup de force, un coup de main en quelque sorte, faut pas exagérer. Il y avait du monde derrière les bolcheviks, sinon ils n'auraient jamais pris le pouvoir, parce que en face, ils ont résisté. Mais enfin, bon, les bolcheviks avaient des arguments en particulier, ils avaient déjà une garde militaire. C'est Trotsky qui va devenir le coordinateur et le chef de l'armée des bolcheviks, de l'armée rouge. Ils avaient des marins aussi, hein. C'est le cuirassé Aurore qui va pointer ses canons sur le palais d'hiver et qui va forcer les soutiens de Kerensky à abandonner. Donc ils prennent le pouvoir, mais ils ont tout le monde contre eux, hein. Donc c'est le début d'une guerre civile épouvantable qui ne s'achèvera qu'en 1919 et qui en plus de ça sera prolongée par l'intervention militaire des puissances étrangères qui veulent étouffer la révolution dans l'œuf. Et donc c'était un épisode extrêmement dramatique, une guerre civile qui oppose les armées blanches, dirigées par des aristocrates russes, soutenues par les puissances étrangères. En plus, un désordre épouvantable, ça va être une période de guerre épouvantable, guerre à couteau tiré. Bon.
De 1917 à 1923, la guerre civile russe aurait fait entre 10 et 20 millions de morts.
Les bolcheviks vont finir par tenir le pouvoir. Lorsque commence l'année 1919, les bolcheviks ont gagné. Ils ont repoussé l'attaque des Polonais. Les Polonais vont être parmi les puissances étrangères qui vont attaquer la Russie, etc. Mais bien d'autres encore, enfin bon. Lorsque les bolcheviks prennent le pouvoir, les Allemands ils vont tout de suite essayer d'obtenir une paix blanche. Mais les Allemands vont profiter évidemment de la faiblesse du pouvoir soviétique pour attaquer et conquérir des territoires tout à fait considérables, comme les Polonais d'ailleurs. Alors les Polonais, ils obtiennent l'indépendance. Évidemment, avec la révolution russe, la Pologne renaît. Elle n'existait pas, la Pologne. Elle a été partagée entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie. Et donc, la révolution bolchevique va permettre à la Pologne de renaître. Et le premier soin des dirigeants polonais, c'est de se jeter sur la Russie pour conquérir des territoires à l'est, sur la Biélorussie, l'Ukraine, etc. Enfin, il s'agit aussi de prendre l'Ukraine, déjà à l'époque. Donc, les Russes arrive à s'en sortir en 1919. La répercussion de cette révolution va être tout à fait considérable. D'abord parce que mars 1918, le gouvernement bolchevique signe une paix séparée avec l'Allemagne. Une paix désastreuse pour la Russie. D'immenses territoires russes ont été conquis par l'Allemagne et ses alliés. Enfin bon, mais ça va permettre à l'Allemagne, bien sûr, de rapatrier une partie de ses troupes vers le front occidental et de faire une offensive terrible qui a failli gagner. Mais malheureusement pour les Allemands, les Américains sont entrés dans la guerre. Je ne veux pas dire que c'est les Américains qui ont gagné la guerre, mais disons que ça va être l'apport un peu décisif qui va permettre d'arrêter l'offensive allemande et de repousser les Allemands derrière leurs frontières. Pour revenir à la Russie, malgré les difficultés terribles que rencontrent les bolcheviks, l'exemple de la révolution bolchevique va retentir en Europe de façon considérable. On a du mal à imaginer quel a été l'impact, aussi bien sur les gens hostiles à cette révolution qu'aux gens à qui ça va donner une espérance. Les milieux dirigeants du monde entier vont se prendre une trouille de première. Première décision qu'ils prennent, c'est d'intervenir. Et ensuite, après, quand cette intervention va être vaincue, ils vont organiser autour de cette Russie soviétique une sorte de cordon sanitaire, selon les termes de Clémenceau, de pays très hostiles à l'URSS. De la Pologne jusqu'à la Roumanie, tous ces pays vont être des pays foncièrement anticommunistes, dirigés par une aristocratie d'extrême droite, on dirait aujourd'hui. D'ailleurs, ces pays vont assez vite adopter des régimes autoritaires fascistes. On essaye de se prémunir, de faire un cordon sanitaire autour de la peste bolchevique. Pour ce qui est des gens qui espèrent dans cette révolution, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est chouette, au moins les Russes, ils ont réussi à se débarrasser de leur classe dirigeante et à installer un régime socialiste, puisqu'ils ont nationalisé les usines, les mines, etc., collectivisé la terre, enfin. » Donc ça va faire naître dans beaucoup de parties du monde un espoir considérable, et en Europe occidentale en particulier. Un des premiers effets de cette révolution, c'est en Allemagne. Alors en Allemagne, en novembre, au moment de l'armistice, l'empereur d'Allemagne, Guillaume, abdique. C'est la fin de l'Empire allemand, de la monarchie allemande. Et immédiatement, des forces politiques se réunissent pour créer une république, dite la République de Weimar, autour d'un chef socialiste, Heber. Et en même temps que se crée cette république, la révolution va éclater en Allemagne, dirigée par l'aile gauche du Parti social-démocrate allemand, Liebknecht, Rosa Luxembourg.
C'est la révolution spartakiste.
Ce mouvement qu'ils appellent spartakiste, de révolte, qui est un mouvement communiste, comme les soviétiques. Une révolution socialiste. Sauf que là, en Allemagne, il va y avoir une réaction rapide et efficace des forces de la réaction. Hébert, qui est le chef du Parti Socialiste,
chef du gouvernement, donc.
Ancien collègue de Liebknecht et des spartakistes, va se mettre d'accord avec le chef de l'armée allemande pour écraser le mouvement spartakiste. Et ça va être fait assez rapidement. En janvier, tentative d'insurrection spartakiste à Berlin, Le même mois, Liebknecht et Rosa Luxembourg sont assassinés et le mouvement est écrasé dans le sang par les socialistes allemands, avec l'aide de la droite militaire.
Un gouvernement socialiste qui écrase une révolution menée par des communistes, ça va laisser une blessure, une rancœur, une haine peut-être même entre socialistes et communistes, peut-être plus ancrée en Allemagne qu'en France.
Oui, absolument. Une rivalité, une haine, ça va sans doute faciliter le travail de Hitler. Les socialistes ne veulent pas du tout d'accord avec les communistes, mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Dans la même période de 1919, d'autres révolutions vont éclater. Une république soviétique en Hongrie, qui va durer 133 jours. Une république soviétique en Bavière. En janvier-mars 1919, naît l'Internationale communiste. À l'instigation des bolcheviks, les bolcheviks veulent rompre complètement avec la vieille internationale, la seconde internationale socialiste. Ils veulent faire autre chose. Ils vont donc créer leur propre internationale communiste à laquelle ils invitent les partis socialistes à adhérer. Et le congrès de Tours, il est consécutif à cette décision aussi parce que cette internationale communiste donne 4 mois aux partis socialistes du monde entier pour adhérer. Lorsque l'internationale communiste va se réunir en congrès en juillet-août 1920, les bolcheviks vont imposer 21 conditions très dures, très strictes à l'adhésion. Ils veulent vraiment une rupture complète avec les vieilles pratiques et avec la vieille idéologie socialiste d'avant. Blum n'a pas tort quand il dira au congrès de Tours qu'ils ne veulent pas de conditions aussi sévères, ils préfèrent garder la vieille maison socialiste plutôt que d'adhérer à ce truc bolchevique extrêmement brutal. Ces 21 conditions, elles vont juste de l'organisation du parti jusqu'à la finalité, jusqu'à l'exclusion des gens qui sont un petit peu foireux, etc. Enfin, c'est une constitution de parti communiste dur, de type bolchevique, c'est-à-dire avec une direction très soudée, avec le principe du centralisme démocratique, c'est-à-dire que une fois que la ligne politique est décidée, elle devient impérative pour toutes les sections et tous les communistes. Elle s'impose. C'est ce qu'ils appellent le centralisme démocratique. Démocratique parce que la ligne politique est discutée régulièrement au cours de congrès de délégués du parti. Mais, une fois que la ligne est décidée, elle s'impose à tous. Et cette ligne politique, évidemment, elle doit être conforme aux directives de l'internationale communiste qui se crée. Voilà dans quelles conditions va se réunir le parti socialiste en France à Tours. Mais la division, elle existe déjà. En fait, la division, elle n'a pas eu besoin de la révolution bolchevique et des léninistes pour exister. Au sein du Parti socialiste français, il y a déjà une majorité, avant le congrès de Tours, pour décider d'une rupture. Soit deux partis différents, soit un seul parti, mais avec une ligne politique complètement différente. Bien sûr, l'affaire bolchevique va cristalliser cette opposition, va encourager l'opposition à l'ancienne ligne, et va décider une quantité de gens à rompre définitivement avec les pratiques. Vous voyez, si vous ajoutez tous ces éléments psychologiques et historiques, c'est-à-dire l'effet affreux de cette guerre qui a fait 1 350 000 morts en France, donc cette collaboration jusqu'au bout du Parti Socialiste avec cette politique désastreuse, plus la question qui n'est pas réglée de la participation des socialistes à des gouvernements bourgeois, plus l'éloignement progressif de certains socialistes de la ligne socialiste marxiste. Et là, on voit qu'il y a des gens qui veulent en finir définitivement et radicalement avec la pratique parlementaire, la pratique réformiste, la pratique droitière d'une partie du Parti Socialiste. Le vieux Parti Socialiste va avoir des défenseurs. En plus de ça, ils ont envoyé une délégation en Russie pour examiner ce qui se passait en Russie en pleine révolution, De retour, cette délégation elle n'est pas unanime. Il y a des gens qui disent qu'il faut adhérer, c'est bien ce qu'ils font, c'est très bien. Il faut les soutenir. C'est le cas de Cachin. Longuet, non. En fait, il va y avoir beaucoup de gens qui vont dire non. Il y a déjà une dénonciation du caractère autoritaire, non démocratique. C'est pas la même tradition que la tradition française. Il faut comprendre que, idéologiquement, psychologiquement, nous, on est issus de la Révolution française. On a la tradition de la Révolution française, qui est un événement éminemment démocratique, même s'il y a eu des violences, même beaucoup de violences pendant la Révolution française, on n'en a retenu que la partie unanimiste, triomphaliste, amour de la liberté, principe de 89, etc. Il est resté une vision sentimentale de la Révolution française, très positive. Tous ces gens sont attachés à la Révolution française et à la République. Pour eux, c'est indissociable. Et d'ailleurs, dans le sentiment qui va diriger les opposants à l'adhésion à la Troisième Internationale, à l'Internationale communiste, il y a cet amour de la République, confondu pour eux avec leur socialisme, c'est la République. Les autres leur rétorquent, oui, mais votre République, elle est bourgeoise. C'est la République bourgeoise, elle a fait tirer sur les ouvriers. Hein. À Villeneuve-Saint-Georges, à tout, Clémenceau, le grand républicain Clémenceau, a fait tirer la troupe contre les ouvriers en grève. Hein. Votre République, c'est une République bourgeoise. Ça ne veut pas dire que les communistes étaient contre la République, mais cette République-là, ils n'en voulaient plus. Hein. Donc, il y a eu deux camps qui se sont séparés. La majorité des délégués, dès avant le Congrès, hein, étaient favorables à l'adhésion à la Troisième Internationale et à quitter ce parti socialiste et la Deuxième Internationale qui allait avec. Donc, il y a une majorité de délégués. Donc, les choses sont pliées, je dirais. Hein. Beaucoup d'historiens vont gloser longtemps sur le discours de Blum. Très sentimental, très... On garde la vieille maison, etc. Nous ne voulons pas nous plier aux diktats d'un groupe de bolcheviques asiates, etc. Enfin, je dis, il n'a pas dit ça. C'est moi qui caricature, mais disons que un homme comme Blum, bon, il est à des kilomètres du parti bolchevique. C'est un bourgeois, Blum. Il a beau être au Parti Socialiste, c'est un bourgeois. Il n'a même pas la radicalité qu'avait Jaurès dans son humanisme socialiste. C'est un homme modéré. Il est bien sûr pour l'amélioration de la situation de la classe ouvrière, mais faire la révolution, non. C'est pas des gens de la révolution. En fait, la coupure en 1920, c'est êtes-vous pour faire une subversion, une révolution, pour mettre fin à cette république bourgeoise capitaliste ? Ou est-ce que vous êtes simplement pour une amélioration progressive de la situation des ouvriers, des lois plus démocratiques, une justice moins injuste, et puis une amélioration progressive du sort des ouvriers? Ça va être en quelque sorte entre le courant révolutionnaire et le courant réformiste. Cette coupure, elle coupe le mouvement socialiste en deux pour longtemps. Et on va avoir deux partis politiques très nettement séparés, dans ses finalités, dans ses pratiques évidemment. Alors qu'est-ce qui naît de ce congrès de Tours ? Il naît un parti, parce que l'autre existait déjà. Les modérés, ceux qui ne veulent pas adhérer à la section française de l'Internationale communiste, c'est le premier nom que porte le Parti communiste, c'est SFIC, donc les gens hostiles à cette adhésion, vont rester dans la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, donc dans la deuxième internationale, celle née en 1889. Ce sont des modérés, ce sont des socialistes, et ils sont hostiles à la solution communiste. Ils sont hostiles. Totalement, ils le disent, ils le proclament. Ce sont des socialistes modérés. Bon, petit à petit, on va les voir se rapprocher, enfin, du moins, d'apparence avec le parti radical. Ça partit souvent de petits fonctionnaires. Alors, il y a une base ouvrière encore à la SFIO. Il ne faut pas croire que tous les ouvriers vont aller chez les communistes. Hein. Par exemple, dans le nord de la France, il va y avoir une base ouvrière qui va durer longtemps. Hein. Le Nord est un bastion socialiste, mais quand même globalement, c'est pas un parti ouvrier, disons majoritairement. C'est quand même un parti peut-être de petits employés, d'instituteurs, professions intermédiaires, trucs comme ça. Alors que le Parti communiste, il se veut et il va devenir un parti ouvrier. Parce que un des points de la théorie communiste, c'est la classe ouvrière et la classe révolutionnaire, même si elle s'allie avec d'autres classes pour renverser le système, la classe révolutionnaire, celle qui n'a a rien à perdre et tout à gagner, c'est la classe ouvrière. Donc c'est un parti qui se veut sur le mode bolchevique. Parlons de ce parti communiste qui naît conformément aux 21 conditions posées par les bolcheviques de Lénine. C'est un parti où va se conduire, suivant la pratique du centralisme démocratique, c'est un parti de militants très dévoués, parti qui se veut sans concession, incorruptible, issu de la classe ouvrière, donc la formation des militants ouvriers va être son rôle essentiel. Pour ce qui est des syndicats, les communistes disent « vous restez dans vos syndicats et vous essayez de développer la thèse communiste dans votre syndicat ». Les autres vont dire « oui, ils veulent noyauter les syndicats ». Non, ils veulent développer leur discours communiste à l'intérieur des syndicats. Alors il va y avoir assez vite une scission entre la CGT majoritairement socialiste, contrairement à la politique, le syndicat majoritairement va rester socialiste, avec Jouot, qui est son principal dirigeant. En revanche, les communistes vont être présents dans une autre CGT qui va être la CGTU. CGT unifiée, ce qui est marrant d'ailleurs, puisque pour faire une division, voilà, donc il y a deux CGT à cette époque-là. Alors, ils sont pour l'agitation, la propagande. C'est un parti qui se prépare à tout moment à rentrer dans la clandestinité. C'est un parti qui ne refuse pas la lutte illégale. Ça, c'est un des points, des 21 points soufflés par les bolcheviks. Vous devez pouvoir aussi bien pratiquer une politique légale, d'élection, etc., mais vous devez pouvoir vous préparer aussi à l'illégalité. Si la classe dominante essaye de vous liquider, vous rentrez dans la clandestinité.
Avec raison d'ailleurs, hein, puisque en 1939, il y aura ce qu'on appelle les décrets-lois d'Aladier, hein, qui va faire embastiller et interdire le Parti communiste français, ses militants, ses députés, qui vont être arrêtés, notamment le père de Guy Môquet. Et le prétexte, c'est que le méchant Hitler a fait un pacte germano-soviétique avec le vilain Staline. Les communistes sont en clandestinité depuis 1939. En clandestinité, embastillés, persécutés et compagnie. Donc cette recommandation était plutôt clairvoyante.
Oui, j'ai même rencontré des militants communistes qui m'ont raconté qu'en 1958, lorsqu'il y a eu l'arrivée de De Gaulle au pouvoir dans des conditions assez putschistes, hein, avec une menace de coup de force militaire, eh bien dans les fédérations communistes, on a brûlé les papiers et on a pris des dispositions pour rentrer encore dans la clandestinité en 1958. C'est-à-dire que le Parti communiste gardait en quelque sorte ce vieux fond bolchévique, léniniste, extrêmement marqué. Bon, aujourd'hui, je doute que le Parti communiste, ou ce qu'il en reste, puisse entrer jamais dans la clandestinité parce que les pratiques n'existent plus. Peut-être que c'est bien dommage. Peut-être que nous serons condamnés dans un avenir pas si éloigné que ça à des formes de lutte qui ne sont pas les luttes légales, parlementaires, etc. parce que imposées par le pouvoir brutal, policier, etc. Je fais peut-être des prophéties à la mort moelle-neuve, mais sait-on jamais. En tout cas, le Parti communiste qui naît, une des conditions imposées par Lénine, c'est également de ne pas faire d'alliance avec les partis bourgeois et la social-démocratie. Les communistes sont invités éventuellement à faire des alliances avec des paysans, avec des gens qui ne sont pas communistes ou qui ne sont pas... Mais pas avec le Parti Socialiste. D'ailleurs, les socialistes sont également très hostiles à toute alliance. Donc c'est une séparation qui va durer quand même jusqu'au Front Populaire. Jusqu'aux années 30, les communistes pratiquent une politique dite classe contre classe, c'est-à-dire classe ouvrière contre classe bourgeoise, sans compromis avec les partis de la gauche bourgeoise, etc. Aucun compromis. Pas d'alliance avec des gens aussi suspects de trahison que les sociodémocrates. Il faudra attendre l'arrivée d'Hitler au pouvoir pour que l'Internationale communiste fléchisse son discours. Là, l'Internationale communiste invite les partis communistes à faire des alliances avec les partis socialistes ou les partis de gauche. C'est ce qui va se passer en Espagne et en France. En revanche, aussi bien en Autriche qu'en Allemagne, la social-démocratie, les socialistes modérés, refuseront toujours de faire alliance avec les communistes, y compris contre le nazisme ou le fascisme, tellement leur anticommunisme est viscéral. Parce qu'on oublie ça. J'ai entendu une fois un type péroré à la télé dire « Oui, les communistes sont responsables de l'arrivée d'Hitler parce qu'ils n'ont jamais voulu faire l'alliance avec les socialistes. » Non, 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 non. Une alliance aurait été possible, puisque les communistes allemands obéissaient aux injonctions de l'Internationale communiste. Mais il aurait fallu pour ça que le Parti socialiste allemand s'y prête. Il n'a jamais voulu, hein. Alors l'Internationale communiste, que les Russes appellent Comintern, c'est une organisation censée représenter tous les partis communistes du monde, mais on a bien compris que la direction, c'est une direction soviétique. Cette Internationale communiste, elle se donne pour tâche la révolution mondiale. Dans tous les pays, la Chine, l'Afrique, partout, on peut faire des sections communistes, on fait des sections communistes. Donc la lutte anticolonialiste, elle se fait avec le Comintern. Le Comintern, en quelque sorte, devient la bête noire des dirigeants occidentaux, qui y voient la main de Moscou, la main des agitateurs. Alors c'est une organisation très efficace quand même à certains points de vue, le Comintern, parce qu'il a des responsables qui vont un peu comme des commissaires politiques dans tous les partis communistes et dans toutes les parties du monde pour faire de l'agitation politique. Ça aussi c'est une invention des communistes, c'est de faire des professionnels de la politique pour la révolution bien sûr, hein. Parce que les professionnels de la politique, la bourgeoisie connaît ça depuis longtemps. Mais les socialistes non. disons, les élus, des journalistes, des intellectuels, mais il n'y a pas de professionnels de la politique. Des gens qui sont rompus aux techniques de la propagande et de l'agitation. Agite propre. Agitation, propagande, c'est un des secteurs les plus importants des partis communistes. Il s'agit de faire de l'agitation, de la propagande, d'organiser la révolution, à terme. Et le comité ne va exister jusqu'à, je crois que c'est en 1943, que Staline décide de mettre fin au Comintern pour ne pas effrayer ses alliés. Il ne faut pas oublier qu'en 1943, l'Union soviétique est alliée aux Britanniques et aux Américains. Donc pour éviter de prêter le flanc à la critique, vous voulez faire la révolution chez nous, vous êtes des agitateurs, etc. Staline dit non, on est alliés. Il n'y a plus d'internationale communiste, donc elle est dissoute. Ce qui ne veut pas dire que les soviétiques vont cesser d'avoir une influence sur les partis communistes, le Parti communiste français en particulier. Il va continuer à aider, surveiller l'action des communistes. D'ailleurs, ils ne sont pas toujours d'accord. Et les désaccords vont s'accentuer à partir des années 60, où il y a le fameux 20e congrès du Parti communiste soviétique avec Khrouchtchev, qui est une dénonciation de Staline et des crimes du stalinisme. Et à partir de ce moment-là, dans les partis communistes, ça va ruer dans les brancards, évidemment. Et puis en plus, il va y avoir aussi des problèmes avec l'intervention soviétique en 56 à Budapest. Toutes ces questions-là vont agiter le monde communiste. Donc, c'est des relations assez houleuses, en fin de compte. En même temps, les soviétiques ont intérêt à soutenir ces partis communistes, parce que c'est la guerre froide et que pour eux, c'est des alliés. Hein. Et en même temps, les communistes du monde entier supportent mal la mainmise des soviétiques sur leur politique. C'est un vrai problème. Mais regardez, par exemple, le cas des communistes espagnols et portugais après la Seconde Guerre mondiale. Le Portugal est soumis à la dictature de Salazar et l'Espagne est encore soumise à la dictature sanglante de Franco. Il y a des partis communistes clandestins dans ces deux pays-là. Les seuls qui les soutiennent, c'est l'Union soviétique, qui envoie de l'argent, du matériel, qui protège aussi en partie les gens, etc., contre la répression fasciste. Donc ces partis vont rester assez longtemps fidèles à l'Union soviétique et à l'alliance avec les soviétiques. En France, ça va commencer à ruer dans les brancards après la mort de Maurice Thorez, qui est un dirigeant historique du Parti communiste. Les communistes français prennent quelques distances et disent « nous, on va faire une révolution. Ça va pas être une révolution bolchevique. Hein. » Ils réfutent le modèle soviétique de 1917. On va faire autre chose. On reste fidèle au communisme, mais au marxisme, au léninisme, mais pas besoin de copier le modèle soviétique. Et puis, il va y avoir, en 1968, Prague. L'intervention soviétique à Prague qui est désavouée par le Parti communiste français. Et malgré ce désaveu, le pacte de Varsovie intervient à Prague, écrase la révolution, le printemps de Prague, hein, pourtant qui était dirigé par des communistes. Dubček et Svoboda, ce sont des communistes. Et pourtant, les Russes ont tellement peur de l'intervention américaine, c'est une obsession chez eux. Paranoïaque presque. Ils voient la main de Washington partout. Hein.
C'est pas complètement injustifié.
Absolument pas. Non, bien sûr. Il y a en permanence des tentatives pour déstabiliser. Et encore aujourd'hui, où le système n'est plus communiste, il continue d'y avoir en permanence une action des Occidentaux contre la Russie. En Ukraine et ailleurs, etc. Il s'agit en fait de déstabiliser Moscou. Ça, c'est resté dans la culture des Amerlocs et des Occidentaux. Il faut faire chier les Russes. Cette relative vassalisation des partis communistes à l'égard de la Mecque du communisme, c'est-à-dire Moscou, va poser problème à partir du moment où il va y avoir Staline. Il va y avoir des périodes extrêmement dures dans l'histoire soviétique, hein, on les connaît, etc. Le goulag, Staline, etc. Les procès de Moscou, des trucs comme ça. Une des conséquences, c'est que l'opposition au sein du mouvement ouvrier des partis socialistes, l'opposition au communisme va s'accentuer en disant, vous voyez, c'est un système qui est totalitaire, c'est un système qui est contraire à la démocratie et à la liberté. Donc, vous voyez, nous avons eu raison de rester fidèles au vieux parti socialiste. Hein, alors, parce que les communistes sont fourvoyés dans un système de dictature asiatique, etc., qui n'est pas du tout dans notre tradition. Hein. Cette période la plus dure de l'histoire soviétique correspond aussi à la période où il va y avoir Hitler et la Seconde Guerre mondiale. Alors Hitler et la Seconde Guerre mondiale vont avoir cet effet paradoxal en fait, de renforcer le pouvoir soviétique, le stalinisme, ce qu'on appelle globalement le stalinisme. Et après la Seconde Guerre mondiale, donc, va donner en quelque sorte de la force au Parti communiste. Les partis communistes du monde entier vont gagner après la Seconde Guerre mondiale, gagner en audience, considérablement. Hein. Il y avait des ministres communistes en Belgique, hein, en Italie, hein, en France, peut-être même en Hollande, enfin bref, il y a quand même une vague. Hein. Mais alors la réaction de la guerre froide à l'instigation des États-Unis va remettre la pression. Et ce qu'on appelle le stalinisme va sortir renforcé de l'agression permanente des États-Unis et des Occidentaux, avec les risques de guerre atomique et trucs comme ça. Enfin, l'extrême tension qui a existé dans ces années-là va renforcer le caractère paranoïaque du régime soviétique, en quelque sorte. Il va se retrancher. Plus question de concession, de libéralisation, de libéralisme, de printemps, etc. Il s'agit de défendre la forteresse. Une sorte de sentiment obsidional, comme on dit, c'est-à-dire de forteresse assiégée chez les soviétiques. En plus, qui va contraindre les partis communistes à soutenir l'URSS contre l'hostilité occidentale et américaine. Donc compromettre en quelque sorte les partis communistes, ça, tout ce qui s'est passé ensuite découle de cette situation-là. Bon, mais les partis communistes, comme le Parti communiste français, n'est pour rien dans le stalinisme. On les accusait de stalinisme, etc. Mais ils se sont contentés de soutenir l'URSS qui leur paraissait être le bastion de la classe ouvrière internationale contre l'impérialisme, malgré ce qui s'est passé, malgré tout. Revenons aux socialistes. Que devient la SFIO après 1920? La gauche républicaine. Il va y avoir, donc, dans les années 30, une alliance, le Front populaire, entre ces deux gauches. Très furtive, très provisoire, puisque le Front populaire, c'est 1936. En 1937, c'est déjà terminé. Hein.
1937, le mouvement social de 36 et l'alliance du PC avec les socialistes ont propulsé Léon Blum au pouvoir. Mais ce n'est pas à Blum qu'on doit les conquêtes sociales de 36, les congés payés et tout ça. C'est aux salariés en grève qu'on les doit, ces conquêtes sociales. Blum, lui, fera juste l'intermédiaire entre le patronat et les grévistes de 36. Mais après quelques réformes, il annonce une pause dès 1937.
Pourquoi une pause? Pour une raison bien simple, bien vulgaire. C'est que depuis 8 mois passés, nous sommes allés très vite et qu'après une course si rapide, il peut être naturel de souffler un peu. Nous pourrons repartir bientôt ensemble, repartir pour de nouvelles conquêtes, pour de nouveaux progrès et pour de nouvelles victoires.
Une quinzaine d'années après la scission du congrès de Tours de 1920, pourquoi est-ce que les communistes consentent à s'allier aux socialistes? C'est que dès les années 20 et 30, les capitalismes occidentaux soutiennent des régimes fascistes partout en Europe. Italie de Mussolini dès 1922, mais aussi Pologne, Roumanie, Hongrie, Espagne, Portugal, et puis bien sûr l'Allemagne nazie d'Hitler. Staline a bien compris que les oligarchies financières occidentales instrumentalisent les nazis pour jeter ces derniers sur l'URSS. Ça, tout le monde l'a bien compris. Il faut donc faire barrage aux dangers fascistes partout où c'est possible. D'autant plus que le 6 février 34, une manifestation ralliant plusieurs factions d'extrême droite menace de prendre le Parlement français. Moscou décide donc d'en cesser avec la ligne classe contre classe et demande au Parti communiste français de s'allier aux socialistes contre les menaces fascistes. Cette alliance PC-SFIO permettra donc à Blum d'être élu en 36 à la tête d'un gouvernement dit de front populaire qui se révélera bien mou. Bon, en tout cas, ce ne sera pas la dernière fois que les communistes consentant à appuyer les socialistes se feront entourlouper par ces derniers. Mitterrand leur refera le coup en 1981.
Nous accorderons au gouvernement socialiste une collaboration étroite, fraternelle et sans éclipse. Le Parti communiste travaillera à faire une France libre, forte et heureuse.
Ils font de grosses concessions, les communistes, à ce moment-là. C'est eux qui font les frais des concessions, parce qu'ils soutiennent un gouvernement qui n'est pas un gouvernement communiste, qui n'est pas un gouvernement socialiste, qui est simplement un gouvernement républicain, de gauche, mais c'est tout. Hein. Et d'ailleurs, on voit bien que ce n'est pas un gouvernement de gauche, il ne soutiendra pas le Front Populaire Espagnol. Et il laissera massacrer les républicains espagnols par les franquistes.
Eux-mêmes appuyés par les nazis et les Italiens.
Exactement. De plus, assez vite, le Front Populaire se désagrège. Blum décide de faire une pause en 1937, hein, effrayé par les conquêtes sociales, par les revendications de la classe ouvrière. Et c'est un moment d'arrêt, et ça va être un moment de réaction. Car en effet, dès 1938, la droite à nouveau est au pouvoir, alliée aux radicaux, qui étaient dans le Front Populaire. Et là, c'est les communistes qui sont les victimes de cette réaction droitière en France. C'est le moment de Munich. C'est le moment des concessions faites par la France à Hitler.
Avant de faire des courbettes à Hitler, le gouvernement dit de Front Populaire de Blum abandonnera lâchement la République espagnole aux mains du fasciste Franco. Puis Daladier, du parti radical, signera lui un pacte de non-agression avec Hitler. Les accords de Munich de 1938, où la France abandonne son allié, la République tchécoslovaque, qui se retrouve seule face aux nazis. Et quand, un an après la trahison de Munich, Staline accepte l'improbable pacte germano-soviétique qu'Hitler lui propose en 1939, en France sont votés les décrets-lois Daladier qui font interdire le Parti communiste, jeter en prison ses députés et militants.
Il y a quelques semaines, les chefs communistes se présentaient à vous comme de farouches patriotes. Ils annonçaient qu'il serait à la pointe du combat contre Hitler et contre ses armées. Et il a suffi que les bolcheviks trouvent leur intérêt à s'entendre avec les nazis pour que ces prétendus nouveaux jacobins fassent l'apologie d'une paix de trahison.
Les communistes français sont déjà en résistance et en clandestinité dès 1939, avant même que la première botte nazie ne foule le sol de France. Le régime fasciste de Vichy n'aura pas à ajouter grand-chose à ces lois scélérates de persécution du mouvement ouvrier, passées par la fin d'un front finalement pas si populaire que ça.
C'est une véritable réaction, et des lois policières sont votées à ce moment-là par, il faut le dire, la majorité parlementaire de Front Populaire. Évidemment, ce sont les communistes. Les communistes sont rejetés à part de la politique française. Et lorsque le pétainisme va s'installer en 1940, là, ils seront les premières victimes de la répression politique.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la lutte victorieuse contre l'Allemagne nazie confère un immense prestige à l'URSS et au Parti communiste français. L'URSS est le vainqueur militaire du Troisième Reich, au prix de près de 30 millions de morts soviétiques.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?
En France, les résistants communistes n'ont pas attendu le débarquement allié pour combattre l'occupant. S'il y a certes un moment de flottement entre 40 et 41, la situation se clarifiera dès juin 41 quand l'Allemagne agresse l'URSS. Le PC se dira plus tard le parti des 75 000 fusillés. Chiffre exagéré que certains rabaissent à 25 000 victimes, mais ce sont bien les communistes qui furent le fer de lance de la résistance française. D'ailleurs, De Gaulle n'aura pas d'autre choix que de négocier avec les cocos, ce qui sera le travail de Jean Moulin.
Le Parti Socialiste, que devient-il pendant la guerre ? D'abord, il y a des socialistes qui ont voté pour Munich, au nom de la paix, hein, c'était par pacifisme, hein, bon, du moins c'est ce qu'ils disent. Et en 1940, certains vont voter pour le maréchal Pétain. Pas Blum, mais enfin, beaucoup de députés socialistes. Il y a des socialistes qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Ça n'empêche pas les CFIO d'être dissoutes, comme tous les partis politiques de gauche, en tout cas, pendant la période d'occupation du régime de Vichy. Certains socialistes, en particulier dans les milieux syndicalistes, vont se compromettre avec le régime de Vichy. Hein, le mouvement qui s'appelle l'Atelier va participer pendant un certain temps à l'élaboration d'une charte du travail avec les responsables de Vichy. Faut pas oublier ça. Et certains des responsables syndicaux très anticommunistes, par exemple à la direction du syndicat des instituteurs, eh bien, vont se compromettre dans le régime de Vichy. Et d'ailleurs, à la libération, ils seront discrètement débarqués. Par ailleurs, il y a aussi des socialistes qui vont créer des réseaux de résistance. Hein. Toujours très anticommunistes, mais des réseaux de résistance à l'occupation nazie. Mais ils feront énormément de difficultés à faire le Conseil national de la résistance. Par anticommunisme. Hein. Faut pas oublier. Faut rien oublier dans l'histoire. Hein. Quant à l'attitude des socialistes à l'égard des guerres coloniales, les socialistes n'ont raté aucune guerre coloniale. Ils ont été toujours du côté de la guerre coloniale. La 4ème République, qui va naître après la Seconde Guerre mondiale, va illustrer cette attitude de complaisance d'une partie et ses filiaux à l'égard de la colonisation. On pourrait partir des massacres de Madagascar en 1947, et puis arriver jusqu'en 1957 à la bataille d'Alger. Au moment de la bataille d'Alger, qui et représentant de la France à Alger, c'est Lacoste, ancien dirigeant socialiste, syndicaliste, socialiste, et ses filles. C'est lui qui donne les pleins pouvoirs aux généraux pour la politique de répression contre les FLN à la bataille d'Alger, quoi, avec les tortures, les trucs comme ça. Enfin bon, jusqu'en 58, le parti SFIO est d'ailleurs partagé. Il y a une partie de la SFIO qui est contre, faut le dire, Savary et compagnie. Il y a une minorité socialiste, mais la majorité avec Guy Mollet est une majorité colonialiste. Alors bon, elle ne se présente pas comme ça, hein, bien sûr, c'est pour des raisons de civilisation, tu sais bien, etc. Bon, mais n'empêche qu'ils sont du côté du sabre colonial. Leur politique anticoloniale est réprimée les communistes qui, eux, ont une politique anticolonialiste. Bon, c'est le cas de la guerre d'Indochine, ça va être le cas de la guerre d'Algérie, enfin bref. Les socialistes sont plus qu'ambigus. Mitterrand n'était pas au Parti Socialiste, il était à l'UDSR. Moi. Mais enfin, ce sera un futur dirigeant socialiste. Ministre de l'Intérieur en 1954, il dit...
L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne.
Dans la guerre froide, par exemple, dans le grand affrontement entre l'Est et l'Ouest, le Parti Socialiste ne balance pas un seul instant. Il est du côté des Américains. Ils sont très atlantistes, hein. Et ils seront un des principaux artisans de la création de l'Europe, etc. Bon. Alors, ça n'empêche pas les communistes de rechercher l'union avec les socialistes après 1965-66. Délibérément, ils vont choisir de faire une alliance avec les socialistes. Les socialistes sont plus grand-chose, d'ailleurs, à cette époque-là, parce que la 4ème République a malmené le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste avait à peu près 20% des voix à la Libération. Et en 1969, le candidat socialiste au présidentiel, qui s'appelait Gaston Defferre, va avoir 5% des voix. C'est-à-dire que le Parti Socialiste a perdu beaucoup de... Bon, il est encore très influent dans les réseaux, évidemment, dans les fromages républicains, mais ils ont quand même perdu beaucoup de leur éclat et de leur truc. Et les communistes, eux, en revanche, ils dépassent les 20% des voix avec Duclos, etc. Ils sont influents, les communistes. Malgré tout, ils veulent faire l'alliance avec les socialistes. Et ça va être la politique d'union de la gauche, programme commun, du début des années 70. Ont-ils eu raison ? J'ai connu un vieux communiste de la première école, extrêmement méfiant à l'égard de la stratégie d'alliance avec les socialistes. Il traitait Mitterrand de vieux cheval de retour de la 4ème. Pour lui, c'était encore le Parti Socialiste de Mollet qui avait pourchassé les communistes. Et donc pour lui, il n'y avait pas grand-chose à faire avec des gens qui étaient des sociotraîtres. Des planches pourries, disait aussi, hein. Des gens en qui on ne pouvait pas avoir confiance. Alors, bien sûr, on a accusé ces gens-là de stalinisme, de raideur, de... Mais en fait, on a vu par la suite qu'effectivement, il n'y avait pas grand-chose à fonder sur l'alliance avec un parti de compromis, d'arrangement, de combine, etc. Et peu fidèle à l'esprit socialiste.
La renaissance du Parti Socialiste en France, donc il va s'appeler PS, qui va arriver à sa tête un type qui n'était pas socialiste la veille du congrès d'Épinay, François Mitterrand, décoré par le maréchal Pétain lui-même de la Francisque pendant l'occupation. Donc, voilà, un grand homme de gauche, un grand socialiste.
Moi, je veux bien passer là-dessus, parce que tu peux avoir des personnes qui ont été au début conquis par le Pétain, etc., puis très vite ensuite après sont passées à une véritable opposition. Bon, on peut s'être égaré à certains moments. Georges Marchais, quand il avait 20 ans, est parti travailler en Allemagne. Il paraît que c'est bon, il faisait partie des travailleurs volontaires pour gagner sa vie, quoi, parce que bon, il y avait des salaires à la clé, etc. C'est ce que deviennent les gens ensuite après, qui est la vérité des gens. Ce qui me gêne beaucoup plus, c'est quand Mitterrand, garde des Sceaux, ministre de la Justice, accepte la condamnation à mort de militants du FLN qui ont été guillotinés dans les prisons françaises. par la ministre de la Justice, qui était François Mitterrand. Là, ça me gêne beaucoup plus. C'est sûr que c'était un type qui était assez opportuniste, on va dire. Bon. Parce qu'on fait une rénovation que la SFIO devient le PS. La SFIO voit s'agréger autour d'elle, de ce nouveau parti socialiste, des gens qui viennent d'horizons extrêmement diverses. Par exemple, il y a des cathos de gauche, de l'Ouest, Bretagne, jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse étudiante chrétienne, la GEC, la JOC, etc., qui adhèrent. Donc il y a toute une partie de la jeunesse chrétienne progressiste adhère à ce nouveau parti socialiste. De même, il y a l'ancien PSU, qui finit par se fondre dans le Parti Socialiste.
C'est Rocard, ça ?
Oui, c'est Rocard. En fait, le PSU est une division du Parti Radical au départ. Mendès France, l'aile progressiste du Parti Radical. Le Parti Radical, qui a énormément perdu après la guerre, subsiste quand même. Et la partie la plus dynamique, la plus technocratique, la plus saint-simonienne, etc., c'est Rocard. Ça aussi, ça va s'agréger au Parti Socialiste. Donc le Parti Socialiste n'est plus la SFIO. La SFIO était plutôt bouffe-curé, franc-maçon, anticlérical, alors qu'évidemment, une fois qu'on récupère les chrétiens de gauche, de la Bretagne, de l'Ouest, etc., il n'est plus question d'afficher un anticléricalisme virulent, quoi. Donc le parti du Parti Socialiste, qui fait vieux parti radical, va se transformer en un parti socialiste moderne, ouvert, etc. Le problème, surtout, c'est ce qui se passe fin des années 70, c'est-à-dire que beaucoup de dirigeants du Parti Socialiste deviennent des libéraux. Ils vont se virer leur cutie, tourner leur veste, ces gens, les Fabius et compagnie, Rocard et tout, alors que pour certains, ils étaient des gauchistes, hein, en mai 68, comme Rocard. Ils vont devenir des bons vieux libéraux, c'est-à-dire on va faire un capitalisme moderne, compatible avec notre socialisme, et c'est la nouvelle ligne du Parti Socialiste qui explique pourquoi, dès qu'ils prennent le pouvoir en 81, les partis socialistes appliquent une partie du programme commun, et en 83, ça soit dessus.
Rigueur, tout ça, le virage libéral.
Bien sûr, évidemment. C'est-à-dire qu'en face de l'opposition du grand capitalisme, le Parti Socialiste va se coucher tout de suite. C'est un parti qui a une grosse aptitude pour se coucher et baisser son froc. D'autant plus que certains, parmi les dirigeants socialistes, sont des libéraux, plus ou moins honteux. Ils n'ont pas fait encore leur coming out, hein, comme ils le feront avec Hollande. Mais c'est des libéraux. Donc ils vont avoir, sans désemparer, à partir de 1983, une politique libérale, c'est-à-dire conforme aux intérêts du capitalisme français, du grand capitalisme français. C'est tout à fait contraire aux intérêts des travailleurs. Il y a une trahison, là, c'est sûr.
Les socialistes français, depuis 1914, n'ont jamais raté une occasion de trahir le peuple. Première grande trahison des idéaux socialistes pour choisir la guerre et l'union sacrée en 1914, jusqu'à 2016, où on avait un type qui se prétendait socialiste, qui s'est présenté aux élections comme un ennemi de la finance, et qui, sans que personne le lui demande, a quand même détruit le code du travail, entre autres choses.
Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Bon, on a dit plein de mal du Parti Socialiste, un peu de mal du Parti Communiste, mais beaucoup moins. Je le regrette un peu, parce qu'il y a plein de raisons d'avoir été fier d'être communiste. Les communistes ont mené des combats qui sont admirables, qu'on devrait continuer à respecter.
En France, hein, ils n'ont pas créé de goulag, par contre ils ont créé la sécurité sociale, la retraite par répartition, beaucoup de services publics, enfin d'ailleurs tout ce que les gouvernements successifs détruisent depuis 1983. Hein. Donc à défaut de goulag, on a quand même eu la sécu, les services publics, l'éducation populaire, la retraite.
Bien sûr, et ils n'ont pas été les seuls, je le sais bien, à promouvoir ces réformes essentielles. N'empêche que, sans la force du Parti communiste en 1945, ces réformes n'auraient pas eu lieu, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'il a fallu tout le poids du Parti communiste et de la CGT pour imposer ces réformes qui sont des réformes révolutionnaires et très bénéfiques aux travailleurs pendant longtemps. Il faudrait au moins leur reconnaître ça, quoi.
Alors voilà pour ce rapide survol des conséquences de la scission du Congrès de Tours de 1920, pour aboutir aujourd'hui à un parti communiste laminé, un PS épuisé par sa collaboration avec le capital, et au pouvoir une droite fascisante, toujours au service de l'oligarchie financière bien sûr, avec le banquier Macron propulsé sur le trône de France par le soi-disant socialiste François Hollande, grand ennemi de la finance comme on l'a déjà dit. Alors avant de se quitter, retour sur l'héritage d'un authentique socialiste, lui. Une pensée pour ce véritable homme de gauche que fut Jean Jaurès. Jaurès assassiné par un nationaliste à la veille de la première grande boucherie mondiale de 14-18. Jaurès instrumentalisé fin 2020 par un sinistre de l'éducation nationale. En effet, à la suite de l'assassinat du professeur Samuel Paty, décapité par un allumé islamiste, le sinistre Blanquer a demandé aux enseignants de lire la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, mais une lettre tronquée par le sinistre, lettre dont certains passages ont littéralement été censurés, ce qui a beaucoup agacé André.
Dans cette lettre aux instituteurs, il n'y a pas seulement ce qui a été retenu par Blanquer pour faire lire aux élèves d'aujourd'hui. Il y a aussi un contenu politique qui a été évacué parce que, bon, il ne faudrait pas être trop de gauche non plus. Il ne faudrait pas effrayer les classes moyennes, en quelque sorte. C'est pas très honnête de faire ça parce que ça fait passer, en quelque sorte, Jaurès, pour quelqu'un qui, 100 ans avant, supporte la politique de Macron. Je pense que si aujourd'hui Jaurès existait, je pense qu'il prendrait Macron et Blanquer pour des drôles de voyous. Il est vrai qu'un type comme Sarkozy a utilisé également Jaurès et même des militants communistes fusillés pendant la guerre.
Guy Moquet,
etc. pour justifier sa politique. Ces gens-là osent tout. C'est à ça qu'on les reconnaît. Pour ma part, je pense que Macron n'est pas un républicain. Parce qu'il y a république et république. Il y a aussi des républiques conservatrices, réactionnaires, aristocratiques, oligarchiques, etc. C'est toujours des républiques, mais tout dépend du contenu qu'on met dans la République. Quand on dit les grands principes républicains, bien sûr, la laïcité fait partie de ces principes républicains, mais enfin, il y en a d'autres aussi. Liberté, égalité, fraternité, ça compte aussi, ça. Et je pense pas qu'aujourd'hui, avec la politique inégalitaire menée par le gouvernement Macron, on soit dans une République, quoi. D'ailleurs, c'est tellement vrai que, avant la guerre 14, les socialistes parlaient de la sociale, la République sociale. C'est-à-dire qu'ils voulaient bien de la République, mais pas la République bourgeoise qui existait sous la Troisième République, mais une République sociale, qui assure aussi l'égalité, l'équité sociale, etc., la justice sociale. Ce qui n'était pas le cas de la République avant 1914. Elle s'est installée dans les années 1870, la République, mais sur une base conservatrice. C'est la grande bourgeoisie qui a adhéré à la République, qui a emporté le morceau, parce qu'au départ, l'Assemblée qui va créer la République, elle est monarchiste, très majoritairement monarchiste. Bonapartiste, légitimiste, orléaniste, il y a trois prétendants. C'est d'ailleurs parce qu'il y a trois prétendants qui se mettent pas d'accord que la République va pouvoir s'installer à la faveur de la désunion des monarchistes. Et la grande bourgeoisie, voyant que les monarchistes pinaillent, etc., ils disent, bon, on va faire une République, mais on va faire une République conservatrice. C'est Jules Ferry, la grande bourgeoisie industrielle et financière française, qui dit, bon, ok pour le suffrage universel, ok pour la République, mais ça va être une République conservatrice. On va s'arranger pour que le suffrage universel nous donne toujours la majorité. C'est comme ça que ça s'est passé, ça a bien marché. Alors, les militants ouvriers n'étaient pas dupes, cette République n'était pas une République sociale. Ils revendiquaient la sociale. Alors aujourd'hui, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que ces grands financiers, ces grands banquiers qui ont le mot République plein la gueule? Enfin, c'est invraisemblable, ça. Ils chient pour la honte. De quelle République parle-t-il? Non, le mot République, c'est plus qu'un mot creux à partir de ce moment-là. Il faut que non seulement elle soit démocratique, qu'il y ait le suffrage universel, mais qu'on respecte le suffrage universel. C'est même pas le cas aujourd'hui. Il est bafoué presque tous les jours, le suffrage universel. Faut pas nous emmerder trop. Ces gens-là, ce drape dont le manteau extraordinaire de la République magnifié, etc. Vous avez vu ce consensus depuis 100 ans, les Français, la main dans la main, etc. Mais faut pas me raconter de conneries comme ça. La République a fait des choses horribles. Aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent ne peuvent en aucune façon se prévaloir de la République. Par exemple, Jaurès était pour les services publics. Il était pour la nationalisation des grandes sociétés de transport, etc., etc., pour le service public. Et aujourd'hui, on est en train de le bousiller, le service public. Alors, bon, de quelle République parle-t-on? Faut quand même pas se moquer des gens.
La devise de la République française, suite à la révolution bourgeoise de 1789, aurait pu être « liberté, égalité ». Propriété.
De toute façon, la devise républicaine, elle doit beaucoup aux francs-maçons, qui ont été, au moins pendant la Révolution française et les premières années du 19e siècle, disons, une force de progrès, mais avec des limites. Hein, ce sont des bourgeois. Les grandes lois sont votées, hein, dans les années 1880, hein, sur la scolarité, etc., etc. Et à partir de ce moment, c'est fini. Allez, c'est maintenant, ça y est, tout le monde a la liberté, mais vous fermez votre gueule. Vous en demandez pas plus. Là où il fallait pas aller plus loin, c'était évidemment dans la propriété. À partir du moment où vous ne touchez pas au Grisby, tout va bien, on est dans une république et vous êtes libre. Enfin, éventuellement de crever de faim, bon, enfin, bon, c'est...
Fin du deuxième volet de notre série autour du congrès de